Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. En France, il y a près de 68 000 détenus pour 57 400 places. Que les prisonniers qui nous écoutent m'entendent bien, la situation est peut-être un peu moins tendue qu'il y a deux ans en apparence, mais toujours aussi compliquée à débrouiller. Certaines places dites opérationnelles sont inoccupées, certains établissements, de nombreux établissements, sont surchargés, et aussi bien des condamnés ne sont pas très fermement invités à rejoindre une cellule et d'autres y prolongent leur séjour sans guère d'espoir de remise de peine. Ainsi, des infracteurs sexuels, dont le nombre a explosé ces dernières années. Jusqu'à il y a peu, les violences sexuelles dans l'espace public et de plus en plus dans l'espace privé étaient laissées volontairement et assez lâchement dans l'obscurité. Elles sont maintenant surexposées. En langage savant, on parle de redistribution des illégalismes. Dans les bases informatiques, cela se traduit par un fichier d'infamie fourni de plus de 43 000 noms. Et dans le réel, à Fresnes par exemple, où nous conduit Irène Emelianenko, cela se traduit en chiffres. Près du quart des détenus sont des infracteurs sexuels. Faut-il les laisser en stabulation ou demande le directeur tenter quelque chose qui les rende à l'humanité tout en protégeant la société quand ils finiront par sortir? Ce documentaire est monté en partie double. Ici, premier épisode, porte et grille de Fresnes s'ouvrent lentement devant François Test et Irène Emelianenko pour le début d'une session qui durera 6 mois et fera demain l'objet d'un second volet.
Fresnes, allée des Tuyas, en région parisienne. Au pied des longs murs de la maison d'arrêt, encore éclairée par une bien pâle lumière, en ce matin de février 2010, se crée un balai où il est difficile de déceler qui est gardien, médecin, visiteur.
Si j'avais permis, madame. Voilà, madame, 049 84 38 56, le service social.
D'accord.
Vous téléphonez à ce numéro à partir de 14h.
D'accord, alors j'ai pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, il y a pas. Normalement, ce matin, il sort pas.
Moi, j'ai zéro liberté.
Et où est-ce qu'il faut, quand, par exemple, s'il sort?
Il faut attendre où il y a des barrières, où on fait rentrer des voitures.
Ah bon?
Quand ils sont en liberté, on les emmène jusque là-bas.
D'accord.
Voilà,
bon, merci, monsieur.
Bonjour, madame. Irène Medialenko, France Culture, on vient pour travailler avec le docteur Bruno Bruxelles.
Vous êtes deux. Hein.
Oui, voilà, monsieur. Le deuxième est là.
Dans l'unité de prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles, maison d'arrêt de Fresnes. Aujourd'hui, connais-toi toi-même.
Ouais, Renan, j'ai les deux journalistes de France Culture, là. Je réceptionne, ok, merci. Merci. Allez-y, messieurs, dames. Par contre, il va falloir enlever le casque. Tout poser sur la machine, portique, etc.
D'accord.
On va vous expliquer.
Merci.
Entrée dans le premier sas, échange de notre pièce d'identité contre un large jeton qui sera notre unique sésame de sortie avec l'avertissement. Ne le perdez pas. Rituel du dépôt des téléphones portables, clés USB et autres outils de communication dans une consigne pour tout le monde, y compris le personnel pénitentiaire.
Tiens, y a pas de caméra, hein, c'est de la radio. Moi, j'y vais.
Derrière cette porte qui enfin s'ouvre, le grand vieux bâtiment de Fresnes. Un perron, à sa gauche au rez-de-chaussée, le bureau du directeur Bruno Auron. Dans la cour à droite, un autre mur où se dessine une porte. Nous sommes entourés de caméras, concertinas, bruit de goupilles. Un autre sas, la cour anciennement nommée des condamnés à mort, où tournent sous quelques arbres des détenus en promenade ce matin.
soyez tranquille.
Enfin, voici l'unité psychiatrique d'hospitalisation.
Je suis désolé, c'est bloqué de partout.
Bon, c'est pas grave.
Ça veut dire quoi, c'est bloqué de partout?
C'est bloqué de partout.
Nous nous rendons dans l'unité pour les détenus qualifiés d'infracteurs sexuels. Début d'un programme de soins durant 6 mois, avec infracteurs sexuels ayant été condamnés pour des actes sur majeurs ou sur mineurs. En ce qui concerne les mineurs, sont qualifiés d'infractions, meurtre ou assassinat d'un mineur avec viol, torture ou acte de barbarie, mais encore viol, agression, atteinte sexuelle, proxénétisme à l'égard d'un mineur, recours à la prostitution d'un mineur, récidive de ces mêmes actions. Au 30 octobre 2008, selon la CNIL, le fichier des infracteurs de ce type en France concerne 43 408 personnes.
Magali Baudon-Ruzel, nous sommes où ? Ici, c'est votre bureau, mais un bureau particulier.
Voilà, donc ici, vous êtes à l'unité psychiatrique d'hospitalisation, l'UPH. L'UPH, c'est une unité de l'ensemble du SMPR de Fresnes, du service médico-psychologique régional de Fresnes. Et dans cette UPH, comme son nom l'indique, il y a des personnes qui sont en soins, disons, de type hospitalier. Il y a des soins 24 heures sur 24 au rez-de-chaussée, au premier étage, c'est des soins de psychiatrie générale. Et il y a aussi d'autres soins particuliers, cette fois-ci sur une plage horaire de type hôpital de jour, 9h-17h, au deuxième étage de l'UPH. Et là, ce sont des soins réservés à des personnes auteurs d'infractions à caractère sexuel qui veulent effectivement travailler sur eux-mêmes, notamment.
C'est une expérience complètement inédite.
Oui, en effet, nous sommes la seule prison, enfin le seul service de psychiatrie en détention à proposer ce type de travail. En réalité, c'est une histoire ancienne, puisque le soin spécifique en direction des personnes auteurs d'infractions à caractère sexuel en détention a été inauguré dans les années 1994, ici à Fresnes, par le docteur Sophie Baron-Laforêt. Donc ici à Fresnes, c'est une tradition de travailler, notamment par le biais des groupes de parole, avec ces personnes. Voilà. Donc ce qui est de très particulier ici, c'est que les personnes arrivent tout en même temps. Donc il y a 12 places, donc 12 détenus au maximum peuvent arriver tous en même temps. Et ils résident ici, à l'UPH, et ils travaillent pendant 6 mois sur leur problématique. Et ils repartent tous ensemble au bout de 6 mois.
Alors nous partons avec vous pour cette aventure de 6 mois. Là c'est le premier jour avec vous. Nous sommes au rez-de-chaussée, nous allons au deuxième étage.
Voilà, on y va. Vous entendez les bruits de la cantine, comme on dit dans le jargon, de toute la détention. Roland, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? On va au deuxième parce que j'ai pas les clés. Oui, j'ai les clés. Tu as les clés, Isabelle?
On va se faire une joie de vous accompagner. Petite pièce pour vous.
Allez, on y va. Merci.
Monsieur Bruno Auron, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à l'origine de ce projet de session thérapeutique pour les infracteurs sexuels ici à Fresnes ?
À l'origine, non, je ne vais pas m'attribuer ce qui ne m'est pas uniquement dû. Mais par contre, moi, ce que je vais vous indiquer tranquillement, c'est que ce projet-là, je l'ai trouvé dès l'origine extrêmement intéressant. Je l'ai trouvé innovant. Et j'ai pensé qu'il fallait en favoriser la mise en place, parce que je crois que c'est bon pour les détenus que nous avons et qui doivent un jour revenir dans la société après avoir purgé leur peine. Donc je pense que l'idée que la prison ne soit pas uniquement un temps d'attente vers la fin de la peine, mais au contraire un temps où l'on va amener la personne à réfléchir sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle est, où l'on va la prendre en compte, où l'on va la faire parler, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une avancée, c'est de l'ordre du soin en prison. Je pense que c'est une orientation très intéressante.
Alors qu'est-ce que ça voulait dire pour vous en tant que directeur à cette époque-là? Il y avait beaucoup de détenus ayant commis des infractions sexuelles. Il y a une augmentation de...
Moi, je dirais plutôt que la société d'aujourd'hui... Elle voit les infractions sexuelles. Je pense que dans un passé qui n'est pas forcément si lointain que ça, socialement parlant, on voyait moins d'infractions sexuelles. C'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est qu'elles étaient un peu plus invisibles. Aujourd'hui, on voit, on n'est pas d'accord, on peut peut-être dire même qu'on leur condamne, et donc ça veut dire qu'on voit des gens rentrer en prison, en fait, qui n'y seraient pas rentrés dans le passé.
Alors en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. On a 12 cellules, bon, on a, vous allez voir, ça c'est le chariot de la cantine qui grince. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand-chose en fait en matière de logistique. Il y a un bureau qui est une petite salle de réunion dans laquelle on travaille, il y a une infirmerie où il y a les médicaments, et puis il y a un tout petit bureau pour les entretiens individuels. Et c'est même un ancien bureau d'écolier, vous voyez, donc comme meuble. Et puis, il y a cette grande salle qui a été refaite, que vous allez voir à partir du bureau, et qui permet donc les groupes de parole. Voilà, elle est assez sonore, mais voilà, c'est une belle salle pour travailler quand même.
Et donc, sur cet étage, pendant 6 mois, les détenus vont rester pour suivre le soin avec vous et toute votre équipe.
Voilà, c'est ça. Ils acceptent en fait de venir, donc de déménager en fait des divisions qui sont dans lesquelles ils sont habituellement, et ils acceptent de rester ici 6 mois. Ils ont bien sûr toute la vie pénitentiaire continue à exister. Hein. Ils ont des parloirs, évidemment. Ils ont les promenades, ils ont les cantines, mais en revanche, ils ne vont plus pouvoir travailler pour ceux qui travaillaient. Donc vous voyez, il y a un certain effort de leur part. Et ici, les détenus, notre choix, ça a été que des personnes condamnées pour que leur défense au sens judiciaire ne vienne pas contaminer leurs propos, leur travail sur eux-mêmes. Et en réalité, s'ils viennent ici 6 mois, ils renoncent aussi à leur transfert précoce. Vous voyez, dans l'hypothèse où ils pourraient avoir leur transfert assez rapidement dans une maison centrale, eh bien ils savent très bien qu'ils vont s'engager sur un soin pendant 6 mois et que donc leur transfert sera retardé.
Or, quand vous dites longue peine, Magali Baudon-Bruzel, vous parlez de plusieurs années.
On doit avoir 90% ou 95% d'affaires criminelles, donc de peines de réclusion criminelle. On a eu des peines très longues, avec des très lourdes qualifications, comme viol aggravé sur mineur, torture et acte de barbarie. On a eu des personnes qui avaient des affaires comme ça, qui y sont venues. On a peu d'affaires en correctionnel, très peu. Voilà.
Péage, deuxième étage.
Brigitte Guédon, nous sommes ici dans la salle des infirmières, je vais dire, parce que finalement, il y a une majorité d'infirmières ici. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous allez animer un groupe avec des détenus dans le cadre de la formation qui est proposée ici. Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui va se passer là tout à l'heure?
Ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour eux et leur vision d'eux et des autres quand ils étaient petits, quand ils étaient adolescents et adultes, et le mettre en lien avec les actes qu'ils ont commis. C'est-à-dire que les croyances qu'ils ont eues restent toujours actives et ils vont continuer à les développer et à les agir.
Alors comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans cet univers mental de chacun et en groupe en plus?
En groupe, le groupe est soutenant, parce qu'au contraire, ils sont écoutés par d'autres collègues, j'allais dire les appeler comme ça. Ils vont avoir les mêmes difficultés que les autres, et c'est là où c'est soutenant.
Le mieux, c'est que vous vous mettiez là. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous pouvez vous mettre là, monsieur?
Bien sûr. Voilà.
Ok. Vous avez pensé à... Vous avez des questions? Est-ce que vous avez pensé au groupe de la semaine dernière? Ce dont on a parlé?
Oui, des sujets...
Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ou...
Pas vraiment, c'est... non. Parce que bon, le problème, je suis toujours en train de réfléchir, mais...
Est-ce que vous avez lâché la question?
La question de...
La vôtre, de question.
Voilà, c'est pour ça, comme je dis, j'ai en train de réfléchir. Et comme récemment, il y a beaucoup de choses qui sont embrouillées encore en moi.
D'accord.
J'ai beaucoup de... Okay. Il y a beaucoup de choses.
Ok.
C'est pour ça que j'ai du mal à réfléchir vraiment très bien.
Ok.
Juste une chose. J'ai suivi votre conseil. Oui. Je suis allé en promenade.
Super. Et c'était comment, là? De prendre l'air.
Je ne veux pas dire que j'en ai tiré des aspects négatifs, mais pas loin. Mais j'ai vraiment senti que j'étais en prison. Alors qu'en cellule, je le sens, je l'éponge bien moins.
Donc la fonction de rester, de rester dans votre cellule, c'est de ne pas ressentir l'aspect carcéral.
De moins ressentir l'aspect carcéral.
D'accord.
Alors que là, vraiment, j'ai ressenti flagrant. Bon, j'ai vu de l'herbe, j'ai vu deux groupes de fleurs. Des violettes, des pâquerettes. Et là, j'ai vraiment senti que j'étais dans une cage.
Donc ce que j'entends, c'est effectivement, quand vous êtes dans votre cellule, ça vous permet d'évacuer l'aspect carcéral.
Voilà, et je me fais mon monde à moi.
Je vous invite à le faire quand même, pour uniquement des raisons physiques. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous êtes adulte, vous êtes grand, donc... Mais vraiment pour des raisons physiques, et vous en particulier, vous avez besoin de marcher. Je pense à votre cœur.
Oui.
Voilà. Ok. On continue par rapport à la semaine dernière. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez choisir des souvenirs à l'âge de 6 ans, enfin 6-7 ans, à l'adolescence et à l'âge adulte. Et à chacun des trois stades, vous allez essayer de trouver alors ce que j'appelle les croyances, c'est-à-dire sur vous, les autres et le monde. Exemple. C'est clair? Donc on va prendre 5 minutes. Vous allez prendre chacun 5 minutes à vos souvenirs, des souvenirs qui viennent, sans obligatoirement les chercher, qui viennent, et vous allez commencer par 6-7 ans. Est-ce que c'est clair, monsieur? Voilà. Puis quand vous avez fait ça à 6-7 ans, vous prenez l'adolescence. Adolescence, on dit 15-16 ans. Hein. Donc, pas l'après-adolescence, 15-16 ans. Et ensuite, l'âge adulte.
Plongés pour 6 mois dans l'unité de soins de la maison d'arrêt de Fresnes, nous découvrons peu à peu un arsenal thérapeutique. Travail collectif dans une grande salle, réflexion en solitude, visionnement de vidéos en lien avec les infractions sexuelles, création de bandes dessinées ou encore entretien privé. En cette fin de matinée, le docteur Magali Baudon-Bruzel et un patient sont installés dans une cellule reconvertie en lieu de soins, avec pour tout matériel un bureau d'écolier et quelques chaises.
Monsieur Irène, on va fermer la porte peut-être, comme ça on sera plus tranquille. Alors, comment ça va?
Ça va.
Ça va.
Oui.
Alors, la session, elle a commencé
en février.
Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans, de venir ici?
Me poser pas mal de questions. Pourquoi je suis en arrivé à faire ces actes qu'on m'a condamné?
Oui.
Et puis essayer de pas recommencer. Essayer. C'est même pas essayer, c'est pas recommencer.
Oui.
Si j'arrive pas à essayer de régler ce problème que j'ai,
oui.
La solution c'est de je prends le fusil, la cartouche et puis voilà. Moi c'est direct.
Effectivement, là, je vois sur l'expertise que j'ai que les faits, ils sont commis, on le dit tout de suite, en état de récidive légale.
Oui,
donc ça
oui.
Veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu qu'un seul fait.
Pour la dernière peine que j'ai prise, là, donc, il m'a condamné à 26 ans.
Oui, dans l'inclusion criminelle, oui.
Et je ne reconnais pas les faits du tout.
D'accord. Et pour autant, ce qui motive votre désir de faire du soin ici, c'est quand même l'idée que donc, vous l'avez fait deux fois, disons, pour dire les choses simplement, selon vous. Hein,
oui.
Et donc, ça fait quoi? C'est que vous avez peur de le faire quand même une troisième fois, même si vous ne reconnaissez pas les troisièmes faits qui vous sont reprochés?
Oui, il y a ça. Puis c'est que lors de mon dernier procès, en appel, j'ai vu une personne qui était ma victime. Elle était majeure.
Oui.
Et bon, elle est venue témoigner. Et ça m'a... Là, j'ai pu voir que le dégât que j'ai pu commettre sur cette personne. Donc, ça me fait prendre conscience qu'il ne faut plus recommencer. Et puis, ce n'est pas une solution pour que j'arrête. Il est temps. Et largement même grand temps.
Quel âge vous avez?
J'ai 46 ans.
Vous avez 46 ans. Vous avez vécu en couple, ou vous avez été marié, ou en concubinage?
En concubinage.
Et puis, c'est tout?
J'ai été incarcéré.
Après, vous avez été incarcéré, mais il n'y a pas eu des périodes à nouveau de concubinage. Depuis, vous avez été célibataire.
Oui.
Vous êtes célibataire. Vous avez des enfants?
Oui, une fille.
Donc, elle a été issue de cette période de concubinage?
Oui.
C'est ça. Elle a quel âge maintenant?
Elle vient d'avoir 18 ans le mois dernier.
Vous êtes toujours en contact avec elle?
Non.
Pourquoi?
J'ai été déchu de mes droits parentaux.
Vous avez été déchu de vos droits? Pour quelle raison?
Vu que j'étais condamné pour des faits similaires...
Bien que vous soyez relaxé sur cette affaire,
voilà.
On vous a déchu de votre devoir d'autorité. Alors, sur le plan des antécédents judiciaires, si on reprend précisément, donc vous avez été condamné une première fois pour... Alors, les qualifications...
Agression sexuelle qui marquait.
Et viol.
Il marque agression sexuelle.
Bon, d'accord. Mais donc, si cour d'assises, c'est criminel.
Oui,
c'est
viol, c'est criminel. Donc,
et...
J'ai pris 8 ans.
Vous avez pris 8 ans de réclusion criminelle.
Oui.
Et là, la victime, c'était qui?
Donc, c'était ma belle-fille.
Oui.
Et neveu et nièce.
Ils avaient quel âge au moment des faits, à peu près?
6-7 ans.
6-7 ans, à peu près?
Oui, à peu près.
Ok. Alors, donc, vous faites votre peine. Vous êtes relâché à mi-peine? Vous faites une...
Non. J'ai toujours refusé la conditionnelle.
Pour quelle raison?
C'est que j'avais tellement de haine en moi contre ma copine qui a placé ma fille.
Oui.
Donc, j'ai dit, je voulais me venger.
Ouais.
Donc, j'ai dit... Puis pour moi, j'étais coupable, si j'avais reconnu les faits.
Oui.
Donc, je méritais la peine que j'avais pris, 8 ans.
Alors, quand vous récidivez pour la deuxième affaire, la victime, c'est qui?
Alors, c'est deux garçons et une petite fille.
Deux garçons de quel âge?
Je n'ai pas. 8 ans.
Oui.
5 ans et 3 ans.
8, 5 et la fille de 3 ans.
Oui.
C'était des victimes qui étaient dans votre entourage immédiat?
Oui, voilà. Ah oui, tout le temps. Voilà. C'était des personnes que je... C'est ça le problème. Si je ne veux pas aller dans la rue et agresser un enfant comme ça, non. Il faut que je connaisse.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Parce que c'est plus facile?
Peut-être. Tu me faisais confiance. Mais bon.
Ils vous font confiance, ils sont dans votre entourage immédiat. Pour moi, ça m'évoque, c'est plus facile.
Oui, peut-être.
Enfin,
oui.
C'est un peu... C'est pas très agréable à entendre pour vous, peut-être, mais
non,
ça m'évoque ça, vous voyez, il hein, faut le dire.
Oui, par contre, quand je suis sorti, j'avais pris la décision de ne plus avoir de contact avec des enfants. J'avais pris cette décision-là, comme ça, je dis, il n'y aura plus de problème. Puis bon, chez la dame où j'étais hébergé, ses petits-enfants qui venaient. Et plusieurs fois, je les accompagne à l'école, des trucs comme ça, sa mère ne pouvait pas. Et je disais à la maman, tu sais pourquoi je suis tombée? Je dis, je n'ai pas le droit d'avoir des contacts avec des enfants, donc j'évite. Et puis voilà, et à un moment, j'ai eu en garde chez la dame, ils ont dormi dans ma chambre, et le truc s'est passé.
Mais dites-moi, vous étiez suivi à l'époque, comme vous le disiez, par un agent de probation.
Et un psychiatre.
Il ne connaissait pas votre situation, qui était quand même une situation à haut risque.
C'est que j'ai arrêté de voir le psychiatre en 2001,
ouais.
Parce que j'aime pas qu'on se mêle de mes affaires, parce qu'avec le psy, j'y allais en consultation normale.
Ouais.
J'ai pas aimé que le médecin accepte, sans me demander mon avis.
D'accord, et vous proposez de faire un peu...
Une thérapie de...
Une prise en charge de jour.
Oui, voilà.
Toute la journée,
oui, alors là,
et ça vous a pas plu, donc vous avez rompu les points avec lui. Les périodes des faits, ça s'étale sur combien de temps? Plusieurs mois?
Non, un mois, ouais, parce que ça s'est passé qu'une fois. Donc,
Ça s'est passé qu'une fois, pour la deuxième fois, avec chacune des victimes?
Non, les trois étaient là.
Les trois en même temps? D'accord, je ne connais pas les faits.
Oui.
D'accord. Ok, et la première période des faits, ça s'est passé combien de temps?
Sur 2 ans à peu près, en gros.
Quand vous dites que vous disiez à cette personne que, bon, elle sait pourquoi vous avez, ce qui s'est passé pour vous au plan judiciaire, etc., qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'elle y est pour quelque chose dans ce qui s'est passé?
Non, je ne veux pas dire que je ne veux pas me déculpabiliser.
Ouais.
Non, pas du tout. Mais, désolé, moi, si, c'est mon cas, j'héberge quelqu'un qui est. Là, bon, je ne mettrai pas des enfants parce que. Comme je reprends la phrase que mon avocat a prise. On ne peut pas rentrer le loup dans la bergerie.
Oui, en même temps, si on suit la métaphore, vous, entre guillemets, le loup, vous savez très bien que c'était une bergerie.
Oui.
Pourquoi vous n'êtes pas allé dans la forêt?
Voilà. Oui, mais c'est que c'est passé dans ma chambre, donc il n'avait pas à être dans ma chambre.
Non,
oui.
Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de vivre dans un endroit où il y avait des enfants qui venaient, au fond?
Ben, j'avais pas le choix. Donc.
Mais si la même situation se présente à votre prochaine sortie de détention, qu'est-ce que vous ferez?
Ben, je vous l'ai dit. La cartouche.
Qui veut commencer? Mais savoir quoi
Racontez votre souvenir de quand vous aviez 6-7 ans et
mon souvenir.
Ce que vous en avez compris sur ce que vous êtes dit de vous, des autres et du monde.
Alors du monde, bon.
Racontez votre souvenir d'abord.
Mon souvenir à moi, c'est quand j'étais à l'école.
Oui.
Ça, c'est d'être avec mes camarades, d'être à l'école, d'écrire, dessiner, tout ça, c'était. C'est encore aujourd'hui, j'ai tendance à. Que je voudrais aller à nouveau, d'être un petit garçon et d'aller de nouveau à l'école, surtout pour apprendre.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de vous à ce moment-là? Quand vous vous remettez, si vous fermez les yeux une seconde, vous l'avez dû le faire. Et que vous vous remettez à cette époque, qu'est-ce que vous avez pensé de vous? Je suis quoi? Quel qualificatif?
Voilà. Très dur. Mais que c'est une personne déjà très gentille, très.
Donc je suis très gentil.
Voilà, très bien.
Attendez. C'est je suis très gentil.
Voilà, oui.
Je suis très gentil, très bien.
Voilà.
Et que, alors, vous l'avez nommé, c'est ça que vous avez mis?
Pas vraiment, non.
Qu'est-ce que vous avez mis?
J'ai pas vraiment marqué. J'ai marqué tout un truc.
Alors marquez-le. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé des autres, toujours dans ce souvenir-là?
Bah rien de méchant. Bon, ils étaient toujours, comment on dit, très gentils comme moi. Hein. On était toujours
Donc vous avez vu des
bons camarades.
Donc les autres sont gentils.
Voilà.
Alors le monde c'est beaucoup plus vaste. Hein. Le monde autour de vous, ça inclut vos parents, ça inclut les tantes, les oncles, le monde qu'un enfant peut voir à 6-7 ans. À cette époque-là, vous auriez dit quoi du monde?
Qu'est-ce que j'aurais pu dire?
Oui.
Bah, très dur parce que bon, il y a eu des bons et des mauvais. Hein. Ouais, comme on dit, mauvais.
Le monde est mauvais.
Voilà, le monde était.
Et ben voilà, le monde est mauvais.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, le monde est mauvais.
Et ben voilà, écrivez-le.
C'est vrai qu'il y a une prise un regard qui est porté par la société sur ce type de délit à l'extérieur, en dehors même de la détention, qui est un regard qui n'est pas très positif. Et donc le même regard va se retrouver un peu en détention, où le regard social est reproduit et exagéré, je dirais, en détention.
Alors il y a combien de détenus ici à Fresnes et combien sont concernés potentiellement par cette formation, Bruno?
Alors là, c'est plus difficile. Disons que ce genre de délit, généralement, ça tourne ici autour de 22-23%. Mais vous le savez, parce que le docteur Bourdon-Bruzel certainement vous l'a indiqué, c'est aussi basé sur le volontariat. C'est-à-dire qu'il faut que la personne adhère au projet.
Qui veut prendre la suite ?
Bon, pour les souvenirs d'une première enfance, un souvenir frappant, c'est ma première fessée, c'était bien la seule que j'ai dû prendre dans mon existence par mon père, parce que je m'en souviens encore. J'avais 6-7 ans, oui, maximum. J'étais avec un cousin et puis des gamins de mon âge en train de s'amuser dans une maison en bas du village où mon père travaillait avec ses amis. Il y avait une grille, une grande grille, et il y en avait un pour faire son intéressant, en l'occurrence moi. J'ai pas vu arriver mon père derrière moi qui m'a soulevé et j'ai pris une immense claque sur les fesses qui m'a coupé le souffle, pas de douleur, mais de vexation. Et là, je me suis dit, j'ai rien fait, les grands sont méchants. Et à chaque fois, là, ça me revenait.
Je suis plus haut que les autres, c'est ça?
Oui, l'impression d'être plus grand. Moi, j'ai grimpé là, toi, tu n'as pas grimpé.
Je suis plus grand que les autres.
Oui.
Et alors là, vous avez pensé quoi du monde?
Le monde est méchant.
Et les autres, c'était les autres sont méchants, c'est ça?
Oui.
Donc les autres et le monde, c'était pareil?
C'était pareil. Là, c'était... J'en voulais à tout le monde. Par vexation. Maintenant, l'adolescence. Ça n'a pas été une humiliation corporelle, mais ça m'a touché mon porte-monnaie. Je venais d'avoir une mobilette. Je devais aller à une fête au village à côté. J'avais un copain qui avait mon âge qui était à pied. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je le monte derrière moi et on s'en va à la fête. Mais j'ai fait une mauvaise rencontre. Une voiture bleue avec un gyrophare, conduite par deux bonhommes avec un képi au-dessus d'eux. Bon, on était pris. Et ce que je me souviens, c'est d'avoir payé 10 francs d'amende.
Donc à ce moment-là, vous pensiez quoi de vous? Je suis...
J'étais fier d'emmener quelqu'un donc, et de braver à l'interdit.
Ok, donc je suis fier?
Là, j'étais fier, oui.
À ce moment-là, les autres sont quoi?
Ben, s'ils le font pas pour moi, ce sont les trouillards, hein, comme on disait à cette époque-là.
Les autres sont les trouillards?
Oui. D'accord. Moi, je le fais, je prends le risque.
D'accord. Et le monde?
Le monde ferme les yeux.
Le monde ferme les yeux. Et à l'âge adulte?
Alors, à l'âge adulte,
bah, c'est... Vous avez un souvenir, vous en prenez un?
À l'âge adulte, c'est déjà les actes que j'ai commis. Ouais, bah, c'est là, à l'âge adulte, je suis devenu méchant.
Donc vous pouvez dire je suis méchant?
Voilà, je suis méchant.
D'accord. Les autres sont?
C'est les autres qui sont gentils et le problème c'est que j'ai jamais voulu les croire.
Vous l'avez écrit ça pour vous?
Voilà. C'est ça.
Okay. Est-ce que je vous invite à reprendre ça justement, ce que vous avez vu pour chacun de vous? Et de voir comment ces croyances-là sur vous, les autres et le monde sont même probablement encore actives et a dû, allez, je vais dire, entraîner ce qui, les raisons pour lesquelles vous êtes là. Quel est le lien que vous allez faire? Comment l'humiliation a pu faire des choses pour certains? On se voit la semaine prochaine. Bonne réflexion. Et bon groupe. Hein? Mais vous allez souffler un peu peut-être. D'accord. Moi je vous dis au revoir quand même. Au revoir.
Votre problématique sexuelle, donc c'est-à-dire l'attirance érotique pour les enfants, faut dire les choses comme ça, hein. C'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Vous savez que vous avez cette attirance depuis longtemps.
Oui.
Oui. Vous l'avez compris quand? À quel âge? Je veux dire, quand vous étiez en concubinage, vous le saviez déjà?
Avant, oui, avant, bien avant.
Déjà. Hein. Vous l'avez compris à peu près quand? Quand on s'éveille à la sexualité, quoi, vers?
Oui, bah, à peu près vers.
Autour de la puberté.
19 ans à peu près.
19 ans ?
Ouais, à peu près.
Est-ce que vous-même, quand vous étiez enfant ou adolescent, vous avez été victime ?
Oui.
Oui, vous aviez quel âge ?
Ah, je devais avoir 10-11 ans à peu près.
Qu'est-ce qui se passe quand vous avez 10-11 ans ?
Bah, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Je sais que c'est pas un élève, hein. C'est pas un adulte, c'est un élève.
Un élève qui avait quel âge ?
15-16 ans.
D'accord.
Et. Bah, il m'a emmené dans sa chambre, puis bon, bah...
Et il avait une relation sexuelle avec vous?
Oui.
Une relation complète, il y avait une pénétration,
oui,
pour
dire
les choses.
Oui,
hein,
oui,
voilà,
oui,
hein.
Oui.
Vous étiez d'accord ou pas?
Non.
Et comment ça se fait qu'il l'a fait quand même? Vous osiez pas? Vous vous souvenez un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous étiez?
Non, pas tellement. Je sais que après j'étais triste, oui. Parce que j'ai fait par moi une petite déprime.
Oui.
Et je n'ai parlé à personne.
Oui.
Et maintenant, j'ai appris que soi-disant, il y a un point d'interrogation. Je ne le saurai jamais. J'ai été abusé par mon père.
Qu'est-ce que, d'où ça court, cette histoire?
Bah, c'est que c'est le président qui a... Parce que mon père a commis des actes sur mes soeurs. On a appris ça par l'enquête. Oui. Parce que moi, j'ai un de mes frères qui est incarcéré aussi.
Oui.
Et,
excusez-moi, pour ce même type de problème?
Oui, oui. On est trois. Et... Donc, bah, c'est lui qui a révélé ce truc.
Donc, votre frère qui passe pour notre affaire, il dit qu'il y a eu des abus sexuels de la part de votre père,
oui, oui.
Sur des enfants.
Bah, sur mes soeurs, moi, il y a un petit moment, je le savais, parce que c'était un secret de famille, on peut dire.
D'accord.
Ça. Mais ça, je m'étais dévoilé. Je sais que, bon, bah, pour moi, j'ai une mère, mais pas de père. Et rentrer le soir, c'était quelqu'un d'autoritaire. Mmh. Donc, il fallait y apporter ses chaussons. Si monsieur avait décidé d'aller au lit par cadet à la télé, il débranchait le câble de télé. Ça, je m'en souviens. Et puis, il était vivant avec ma mère.
Il connaît votre mère? Il connaît les enfants aussi? Pas vous, mais d'autres enfants?
Non.
Donc, ce problème, si vous voulez, d'être intéressé donc, au plan sexuel par les enfants, vous l'avez compris... Vous l'avez compris assez jeune.
Oui, assez jeune.
Qu'est-ce que vous faisiez alors? Qu'est-ce que vous vous disiez? Je suis pas normal ou...
Oui, voilà, pour moi, j'étais pas normal, ça, c'est... mais j'ai jamais osé aller boire un psy puis en parler.
Vous saviez que c'était des pensées qui vous excitaient. Si
ouais.
Vous pensiez, pour dire les choses précisément, à un scénario érotique avec des enfants, des enfants non pubères, hein, parce que
oui.
Moi, j'ai bien vu que les victimes, elles sont bien avant la puberté quand même, hein. Il y en a de très très jeunes. Bon, c'est quelque chose qui vous excitait sexuellement.
Ben, voilà.
Ça, vous le saviez?
Oui. C'est après que je disais qu'est-ce que j'ai fait.
C'est ça. Tout de suite après l'acte ou, je sais pas, le lendemain?
Ah non, 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 non. Après, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ça m'empêchait pas de recommencer après.
Quand on le fait une fois, bon, on se dit, comment ça se fait que je l'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça.
Oui, c'est ce que je me disais.
Ça, c'est quand on le fait une fois. Oui. Mais quand on le fait, j'en sais rien, moi, 10 fois, 15 fois, je ne sais pas combien de fois ça s'est fait. Qu'est-ce que vous vous disiez de vous-même, alors? Parce que vous savez bien que vous le refaisiez.
Ben, j'arrivais pas, c'est que j'arrivais pas à me contrôler.
Vous disiez, j'arrive pas à me contrôler.
Voilà.
Mais vous disiez quoi? Je suis un monstre? Je suis un être double? Qu'est-ce que vous disiez de vous-même?
C'est... Je peux pas vous dire exactement, c'est que...
Et
d'abord, quand j'étais incarcéré, c'est la brigade des mineurs qui venait me chercher, j'étais soulagé.
Oui.
C'est le policier l'a vu tout de suite, puis il me dit, je suis soulagé, vous êtes venu. Parce que j'ai reconnu les faits tout de suite. Oui. Ah, il n'y a pas de problème. J'ai même... Parce qu'il est venu pour une seule histoire, d'accord. Et c'est moi qui ai dénoncé les autres.
Oui.
Quelqu'un a dit, il y en avait... Parce qu'il m'a posé la question, est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui. J'ai dit, oui, il y en a d'autres. Donc j'étais soulagé. Que je sois mis de côté...
Que ça s'arrête.
Que ça s'arrête, voilà.
Cet après-midi, dans la grande salle du centre de soins de Fresnes, des dessins, des tableaux, couverts de symboles, des flèches, des ronds, des carrés. C'est l'atelier génogramme, où sont représentés les grands-parents, collatéraux, et enfants,
alors,
dans leurs liens familiaux.
On va continuer sur le génogramme.
Comment ?
On se croit vraiment à l'école ?
On se croit à l'école ?
Ah oui, oui. Mais ce tableau, il s'efface pas, là. Hein ?
Oui.
Il s'efface pas. Alors, vous êtes où, ce génogramme ?
Alors, je suis là.
Vous êtes là ?
Voilà.
D'accord. Vos parents sont où ?
Alors, il y a ma mère.
Ouais.
Et puis mon père.
Votre mère, votre père.
Voilà.
Ok. Les parents de votre père se trouvent où?
Ben, là, en haut, ici.
D'accord.
On décidait tous
les deux.
Les
parents de votre mère.
De ce côté gauche.
Ils sont là.
Droite, je veux dire.
Alors, est-ce que vous, messieurs, là, vous avez remarqué des choses? Vous avez repéré des choses? Alors, il manque des enfants. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
J'ai remarqué qu'on ne peut pas voir qui est marié avec qui.
D'accord. Qui est marié avec qui? Ok. Quoi d'autre? Vos enfants à vous, ils sont où, là? Rappelez-moi.
C'est-à-dire, mes enfants, ils sont là en bas.
Ah ouais. Et les enfants de votre frère, par exemple, ils seraient où?
Ah ouais, voilà, mais ça va pas.
Parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Ils sont où, là? Ils sont à la hauteur, à votre hauteur, alors que ce sont les enfants de votre frère. Vous les avez placés sur la même génération que vous.
Oui, oui, c'est ça, voilà.
Ils devraient être où, donc?
Ils auraient dû être avec...
Allez-y, montrez-moi.
C'est-à-dire, ils auraient dû être avec les autres enfants, c'est-à-dire ensemble.
Tout à fait.
Voilà.
Tout
voilà,
à fait.
Moi, j'ai fait le sens.
Tout à fait.
Ah ben voilà, là
regardez
c'est
bien.
Pas
regardez
oui, oui,
bien.
Il y a un autre
oui,
truc.
Oui, regardez bien.
C'est mon père et ma mère, je les ai pas, ils ne sont pas attachés. Je dis, on dirait qu'ils n'ont pas de lien ensemble.
J'arrivais pas à me contrôler, pourtant j'avais une castration chimique.
Le terme qu'il faut dire, c'est, à mon avis, c'est une aide à la maîtrise pulsionnelle, parce que c'est plus exact.
Oui.
Ah, c'est plus exact. Vous pensez que vous êtes très envahi par des fantasmes sexuels?
Pas en ce moment, mais ouais.
Quand vous étiez dehors, c'était vrai, vous y pensiez beaucoup.
Oui.
Vous y pensiez beaucoup. Vous aviez une pression sexuelle importante? Vous aviez besoin de vous masturber, par exemple, souvent?
Oui, ça arrivait.
Oui. Ça arrivait, c'est-à-dire c'était tous les jours?
Non, pas tous les jours quand même, hein, mais... parce que moi, j'avais la copine, donc... ouais, ça m'arrivait.
Vous pensiez au moins une fois par jour, au moins une fois tous les jours... à des fantasmes érotiques avec des enfants.
Oui.
D'accord. Vous aviez été soulagé, vous nous avez dit d'avoir été arrêté, etc. Et puis ça se passe la deuxième fois. Je pense que vous avez dû, enfin, je sais pas, vous avez dû lutter, je suppose, pour pas le faire.
Bah, au début, c'est-à-dire quand j'étais chez cette dame, donc il y avait ces petits enfants qui venaient, et donc il y avait la petite, elle avait 3 ans. C'était pas un enfant sauvage. Elle venait sur, alors souvent elle venait sur mes genoux. Alors je la prenais, je la reposais par terre. je la repoussais. Et sa tante, oui, puis sa mère me dit, mais pourquoi tu la repousses? Je dis, écoute, vous savez pourquoi j'ai été condamné, donc je veux pas recommencer. Je la repoussais. Mais bon, c'est la gamine qui comprenait pas, donc c'était un gros problème. Mais bon, j'essayais d'éviter d'avoir le plus de contact avec les enfants.
Mais ça commençait à vous exciter sexuellement? Franchement?
Oui, oui, parce que si elle me met sur mes genoux, moi...
Eh ben oui.
Donc alors, c'est pour éviter de...
Est-ce que vous êtes ici en thérapie, on est d'accord?
Oui.
D'accord. Parce qu'il y a eu des passages à l'acte?
Oui.
D'accord. Les victimes sont là?
Il y a une victime, mais c'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. C'est pas avec cette personne que je suis là aujourd'hui.
D'accord. Il y a eu plusieurs victimes dans la famille?
C'est-à-dire dans la famille, il y en a eu deux.
D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont représentés? Est-ce qu'elles sont représentées?
Alors, il y a ma fille.
Oui.
C'est pour ça que j'ai été condamné.
Oui.
Après, bon, il y a eu une autre personne, c'est pour ça que j'ai pris la peine que j'ai aujourd'hui, qui est le mari de ma sœur. C'est-à-dire que ma sœur s'est mariée avec une personne.
Oui.
Et cette personne était le concubin de la personne avec qui j'ai vécu pendant les périodes avant de rentrer en prison.
D'accord.
Ils ont eu un enfant.
Oui, on est d'accord.
Qui est les demi-frères à ceux-là.
Oui, on est d'accord.
Vous êtes d'accord. Et c'est cet enfant que j'ai pas mis qui est la victime de moi.
D'accord.
Parce que c'est-à-dire que le mari de ma sœur est le cousin de mon ex-concubine.
D'accord. Alors, avant qu'on ne se sépare, vous allez reprendre ça tranquillement.
Ouais.
D'accord. Et vous essayez de remettre les gens que vous avez oubliés. Hein? Parce qu'ils étaient adultes. Mmh. Donc, du coup, ce n'était pas nécessaire de les noter.
Oui, oui, oui,
hein?
Oui.
Donc, tous ces gens-là, vous les ramenez parce qu'ils font partie de votre famille et ils doivent être inscrits.
Ok.
D'accord. Vous essayez de faire ça pour la prochaine fois?
Il n'y a pas de problème, ça va être fait.
Merci.
Ça mettra un bon moment, mais ça va être fait.
Merci, messieurs.
Bien comme en centre de détention, j'ai pas vu de psy du tout. Personne m'a obligé, donc.
La première fois.
Oui, la première condamnation.
La première période d'incarcération, vous n'avez pas pu mettre le temps de l'incarcération à profit pour travailler sur vous-même. C'est ça que vous dites.
Par contre, en 86, si j'avais vu un psy, mais quand je l'ai vu une fois, c'était une femme, je l'ai vu une fois, elle m'a dit votre cas est désespéré. Ah ben, je dis c'est bien.
Elle ne le disait pas pour rire, elle le disait sérieusement.
Ah oui, sérieusement, elle m'a dit votre cas est désespéré. Elle m'a dit c'est plus la peine de venir. Et moi, j'ai posé plusieurs fois à des psychiatres et à un psychologue, demander la castration. Et ils sont contre. Elle m'a dit je suis contre en détention. Et j'ai dit pourquoi? Elle me dit parce que non, c'est pas la solution idéale.
Vous savez, ici. Depuis qu'on a ouvert ces sessions thérapeutiques, vous êtes la 5e session, hein, d'accord. J'ai eu plus de 22% de demandes de personnes comme vous, pendant la session, de traitement d'aide à la maîtrise pulsionnelle. J'ai eu spontanément presque un quart des personnes qui faisaient le stage, si on peut dire, thérapeutique, qui sont venues demander le traitement en cours de stage.
Bah oui, c'est une solution. J'ai encore pas mal de questions que je me pose. Donc
vous cherchez des pistes de travail pour comprendre.
Oui, pour comprendre.
Comment s'est construit cette problématique érotique, en quelque sorte.
Voilà.
Hein? Pédophilique, il faut
dire
le mot.
Oui, mais de toute façon, je n'ai pas honte de le dire, c'est que je suis pédophile.
Ouais. Et vous cherchez aussi, d'après ce que j'ai compris aussi, des garde-fous. Ici, voilà. Pour ne pas recommencer.
Oui, essayer, non, c'est même pas essayer. Faut pas que je recommence. Voilà. Moi, je pense pas. C'est même pas à moi que je pense en premier, c'est aux victimes.
Bon, alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous voir, comme je ferai pour tout le monde, régulièrement. J'ai bien noté que vous avez évoqué plusieurs fois la question du traitement, donc de l'aide à la maîtrise pulsionnelle. Hein. Parce que moi, je trouve que castration chimique, c'est vraiment un terme de... Ouais, c'est pas mon terme, parce que c'est pas vrai, c'est pas une castration, puisque c'est complètement réversible.
Ah, c'est pas ce qu'on veut dire.
Ah, si, si. Le traitement, les deux traitements qui sont sur le marché, là, enfin, qui sont l'androcure, c'est des médicaments, enfin, c'est des cachets. Hein. Et puis le décapeptile, c'est une piqûre hein, qu'on fait tous les 3 mois. Ça inhibe l'action des hormones masculines, qui s'appelle la testostérone, qui excite la libido, si vous voulez. Ça fait pas changer les fantasmes, hein. Ça fait baisser la pression libidinale, sexuelle. Voilà. Donc ça fait que, théoriquement, il y a moins d'envie, il y a moins d'érection. Voilà, ça se manifeste comme ça. Mais c'est réversible. C'est une action réversible. C'est-à-dire, si on arrête le traitement, ça revient. D'accord ? Donc, on parle de castration, c'est impropre. Voilà. Mais tout ça, ça se... Enfin, je pense qu'on l'évaluera dans un deuxième temps. Voilà. OK. Je vous remercie. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
C'est exceptionnel un entretien comme celui-là, Magali Baudon-Bruzelle, ou de manière régulière, pour un premier entretien.
Oui, enfin, je partage un peu votre sentiment. C'est vrai que je crois que visiblement, c'était une personne qui avait vraiment très très envie de parler, qui avait vraiment besoin de s'exprimer et besoin de parler, qui souhaitait le faire.
Alors le directeur de ce centre de détention, M. Auron, me disait qu'il y avait très peu de pédophiles qui étaient volontaires pour ces formations.
Pour 100 personnes à peu près abordées, 10 disent oui. Donc 90 disent non. Hein. Alors pour des raisons variées, soit effectivement c'est trop contraignant, les détenus souhaitent leur transfert rapidement, ou ils veulent bien faire des soins, mais enfin pas comme ça pendant 6 mois, etc. Soit, disent-ils, ils sont innocents, donc ils ne voient pas pourquoi ils viendraient travailler sur un problème qui n'existe pas. Voilà. Alors, c'est vrai également que dans cette session, on a assez peu de personnes qui ont un problème pédophilique à proprement parler. Alors, bon, là, on vient de trouver un sujet comme cela, mais il l'a bien dit que, effectivement, les victimes sont dans le cadre un peu intrafamilial ou très proche. Et il est vrai que le profil qu'on a, je crois, jamais eu, c'est le pédophile, comme on dit, hein, prédateur. Voilà. C'est-à-dire qui va chercher des victimes qu'il ne connaît pas. Cela, on n'a jamais eu une seule acceptation de soi sur les 5 sessions que nous avons menées.
Par contre, chef, ces messieurs-dames à la télévision, ils repartent tout seuls jusqu'à l'entrée ou on va peut-être les accompagner ?
Non, on va les accompagner.
Ce serait mieux.
On va les accompagner aussi.
On va vous accompagner, messieurs-dames, hein, pas tout seul.
Je vais vous trouver un surveillant pour accompagner.
Ouais. C'était dans l'unité de prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles, maison d'arrêt de Fresnes, connais-toi toi-même, avec Magali Baudon-Bruzelle, Florent Gaterias, Isabelle, Gwenaëlle, Brigitte, Nadia, Brigitte Guédon, Bruno Auron, les patients et Ronan Melcus. Merci aussi à l'administration pénitentiaire et à celle de l'hôpital Paul Guiraud. Documentation Agnès Gontier. Coordination Christine Gage, Laure-Hélène Plancher. Un documentaire de François Test et Irène Omelianenko pour Sur les Docs.
Merci.
Madame Omelianenko.
Merci.
C'était le premier épisode d'une série de 2, l'expérience
conduite est décrite ici et qui a été saisie à ses débuts est appelée à durer 6 mois, second épisode donc, demain. Ce documentaire, vous pouvez le commenter, vous pouvez le réécouter, franceculture.com, vous cherchez la page de Sur les Docks, 18h dans peu de minutes, le journal de la rédaction de France Culture, et d'abord l'œil du larynx, François Rollin.